Un été
multi-piste.
On continue à recevoir donc bien les artistes ici présents pour ce fameux week-end. Après la musique, eh bien nous allons replacer le contexte historique de ce festival à travers donc bien le cirque, car je vous rappelle que c'est un festival de cirque, de musique, mais aussi d'art visuel, à travers donc bien plusieurs expositions que l'on peut donc bien découvrir. Pour continuer, j'accueille donc bien Jugler. Bonjour Jugler.
Bonjour.
Bienvenue donc sur les ondes du 89 dans cette émission. D'abord, est-ce que tu as bien mangé puisque tu viens à l'instant de finir ton repas ?
Tout à fait, on mange très bien. Ouais.
Une question qui est primordiale, et j'en ai très peu parlé d'ailleurs avec les nombreux artistes que j'ai pu recevoir depuis un certain nombre d'années, de l'hygiène autour des repas, puisque ton spectacle est à 22h. Tu as mangé donc à 19h. Ayant un père sportif, il fallait qu'il mange absolument 3 heures avant ses compétitions pour qu'il ait le temps de digérer, d'assimiler la nourriture, puisque l'effort musculaire qui était le cyclisme en l'occurrence, nécessitait effectivement un repas équilibré quelques heures avant. Pour le cirque, pour les spectacles, ça se passe comment ?
Oui, l'idéal, ça aurait été de manger encore un peu plus tôt, mais rien n'était possible à 18h.
Et pourquoi ? Ah oui, rien n'était ouvert, tu veux dire, mise à disposition, pour, même pour les artistes.
Oui, il aurait fallu qu'on s'organise autrement, mais c'est très bien comme ça, on s'adapte aussi, hein, ça fait partie du jeu. Et
très
puis manger déjà à 19h pour 22h, parce que moi je vais devoir m'échauffer vers 8h30, 9h, donc voilà.
C'était ma question d'après, puisqu'effectivement il y a tout un temps d'adaptation pour le corps, bien entendu, mais aussi une préparation psychologique, entre guillemets, pour rentrer dans ce fameux spectacle. Les essais sont finis, les gens nous rejoignent, mais je vous en prie, assieds-toi.
C'est Lucas, le musicien au plateau avec moi, et Julie qui fait les lumières.
Très bien. Eh bien, avec qui donc tu mangeais ? Je t'ouvre ton micro.
Bonsoir, salut.
Bonsoir. On parlait d'hygiène. Oui, non pas d'hygiène corporelle, mais d'hygiène, on va dire, au niveau de la nourriture. Pour l'instant, tout va bien au niveau de l'hygiène corporelle. Je n'ai pas à me plaindre, sinon je le dirais à mes auditeurs. Mais entendu, on parlait de l'hygiène, de la nourriture, d'assimiler la nourriture, de l'échauffement, de la préparation psychologique avant le spectacle. En tant que musicien, peut-être que cette préparation est moindre, on va dire.
Moindre, sauf que je chante dans ce spectacle. Et du coup, elle est tout à fait importante, parce que manger moins de 2 heures avant le spectacle, le début du spectacle, risque de provoquer quelques éructations involontaires.
Il est vrai. C'est le cas aussi en radio, hein. Ça m'est arrivé.
J'imagine bien.
À avoir des petits rototos qui viennent aléatoirement, c'est ce qui est toujours dérangeant pour les gens avec qui je discute et pour les auditeurs, je l'imagine aussi. Donc après avoir parlé de préparation, parlons de ce spectacle qui est une vraie ambiguïté dans tous les sens du genre et du style, à travers ne serait-ce que ce machinois qui est transformé aussi en bar de pole dance, à travers ces différents personnages jugulaires qui sont on ne sait plus. Au niveau du genre, si c'est il ou elle, d'ailleurs, on s'en fout. Mais
tout
au moins,
fait.
La question, elle est soulevée. Et j'entendais tout à l'heure une émission sur France Inter qui parlait de Molière. Et la question qui revenait régulièrement, c'était qu'est-ce que cet artiste-là, dans le théâtre, a voulu dire de la période dans laquelle il vivait ? En l'occurrence, Jugler, je pense que c'est une question qui est primordiale autour du genre, puisque c'est une notion qui est soulevée par de très nombreux artistes, mais aussi par de nombreuses personnes au quotidien, par de nombreux militants, militantes, des associations. Bref, la société essaye d'avancer et essaye tout simplement d'accepter l'autre. De ton côté, est-ce que c'était une question qui était primordiale dès le départ, ou au contraire, bien rien à foutre et je fais ce que je veux et comment je le ressens surtout ?
C'est un peu ça. Non,
oui, c'est ça,
en fait, c'est un peu un concours de circonstances, parce que moi, j'étais pas forcément, dans ces interrogations-là,
oui.
Où c'était pas forcément une thématique qui m'intéressait, même si je trouvais ça intéressant. Mais c'est parce que je suis venue à cette thématique-là, parce que j'ai écrit un premier spectacle qui s'appelait Diktat, dans lequel aussi, parce que je travaille beaucoup sur la transformation, la métamorphose, et dans lequel aussi j'avais juste un petit passage de 5-10 minutes où je me transformais en homme, juste avec mon corps et des postures. Et c'est le moment qui suscitait énormément de réactions, alors que ce n'était pas du tout le centre du spectacle, et ça m'a posé question. Je me suis dit, mais c'est quoi le problème, en fait, qu'une femme puisse jouer avec son corps et devenir un homme, et au point où les gens, même derrière, à la fin du spectacle, venaient me demander qu'est-ce que j'étais. Donc déjà, c'est marrant, c'est très personnel comme question, mais... Et du coup, à force, je me suis mis à m'intéresser au sujet, tout simplement à lire des choses, à écouter des podcasts, etc., etc. Et
est-ce que tu as compris la réaction des gens justement quand tu
au début non, et puis après en fait c'est que je me rendais pas compte moi-même de ce que ça pouvait projeter, je pense, mais j'ai pas forcément compris. Donc c'est pour ça aussi que je m'y suis intéressée, en me disant pourquoi ça pose problème encore aujourd'hui et pourquoi ça interroge autant. Je pense aussi c'est plus rare une femme qui fait l'homme, qui se transforme en homme. Si on pense travesti, on va tout de suite penser à un mec qui met du rouge à lèvres et des robes. Et l'inverse, beaucoup moins. Oui. Donc je pense qu'il y a aussi tout ce côté un peu plus nouveau, enfin moins vu. Voilà. Et c'est comme ça que c'est par là que je suis arrivée sur cette thématique et qu'à force d'emmagasiner des choses, de tester des choses, j'ai eu envie d'en faire un spectacle, un peu comme au départ un pied de nez, mais en fait je me suis prise au jeu. Même si après, moi, j'ai pas... La question après, c'était la question de comment je défends les choses, parce que je suis pas militante et je suis pas née avec ces questions-là ou profondément ancrée là-dedans, même si je pense que c'est quand même quelque chose qui concerne tout le monde. Enfin, on est tous nés avec un sexe, avec une identité, on s'identifie ou on s'identifie plus tard, mais voilà. Donc,
Alors, comment tu as choisi en tout cas d'en parler ?
Comment j'ai choisi ? Dans le spectacle ?
Dans le spectacle, dans Dick Love.
Mais en fait,
Dick Love qui est aussi... Un double sens,
oui.
Que ce soit en anglais ou en allemand, en l'occurrence, qui est la première version, en tous les cas la première traduction que l'on doit avoir.
C'est ça.
Mais c'est assez drôle tout de même de le penser en anglais.
Oui, oui, bien sûr. Bon, c'est aussi un petit clin d'œil à Diktat, mon premier solo. C'était parce que vu que c'est une digression de ce solo, il y avait aussi l'envie d'avoir un son, quelque chose qui résonne avec ça. Et après, comment j'en parle ? Je me suis dit que j'allais partir de moi, parce que aussi en m'intéressant à ces sujets-là, je me suis regardée, moi, dans ma vie, comment ça se passait pour moi, ces questions-là. Puis je me suis rendu compte de plein de petites choses. J'étais plutôt garçon manqué, j'ai choisi le maths chinois comme spécialité, il n'y avait pas de filles à l'époque, etc., etc. Donc du coup, je commence ce spectacle en parlant de moi et de ces petites anecdotes, et ce qui résonne généralement pas mal avec tout le monde, parce que tout le monde a des petites histoires, en fait, tout le monde se rend compte finalement, il est touché par ça à un moment donné dans sa vie et encore plus dans l'enfance. Et après, j'embarque là-dedans les gens, et puis il y a toutes ces histoires de transformation. Donc voilà, quoi, même si... Et en effet, comme tu dis, finalement, on s'en fiche, enfin, ce sont les personnes qui comptent, mais et en même temps, c'est des choses qu'il faut pouvoir mettre... au jour, enfin, je sais,
ça,
enfin voilà quoi.
Aujourd'hui,
il y a quand même, même si je suis pas militante, c'est forcément quelque chose de politique. Enfin, l'intime est politique et voilà.
Oui, puis c'est quelque chose malheureusement dont on est obligé de parler, on est obligé de le souligner encore et toujours, tout simplement parce que ce n'est pas accepté dans notre société.
Ouais, c'est ça.
Et tant que ça le restera. Tout à l'heure, je recevais Kamikaze qui lui travaille avec des autistes, par exemple, et il m'expliquait qu'avant peut-être de s'attaquer donc à la question du genre, de l'homosexualité. Ouais. La partie que l'on cache depuis tout le temps, ce sont les personnes handicapées, par exemple.
Mmh.
Alors, si les personnes handicapées ne sont pas acceptées dans notre société, qu'en est-il, en tous les cas, des notions de genre et des notions de la couleur et des notions de qui nous sommes et de comment on accepte... C'est ça, des différences et de comment on accepte les autres. Alors, justement, comment on accepte les autres, c'est aussi une question que je peux poser à toi en tant que musicien, à savoir comment mettre en musique ce spectacle. Est-ce que tu as eu une liberté totale? Et si c'est le cas... Comment, justement, tu t'inspires de la proposition artistique ?
Alors, liberté totale, oui, évidemment. Sandrine et moi, on travaille depuis pas mal d'années. Et du coup, il y avait une confiance relativement absolue sur la question de la musique et du genre musical que j'allais utiliser. En tout cas, c'est des allers-retours en permanence avec Sandrine et avec les regards extérieurs qui nous ont suivis là-dessus. Et il n'était pas question forcément d'aller dans une direction plus qu'une autre, même si effectivement le thème du voguing était un peu important pour nous. On avait envie de l'aborder, de voir un peu comment on pouvait traiter un peu ce sujet-là. Du coup, c'est pas forcément des musiques que moi j'étais à l'aise et c'est pas forcément ma culture musicale, mais super intéressant de travailler sur des spectacles.
Est-ce que tu peux nous rappeler le voguing ?
Le voguing étant une danse issue du milieu homosexuel new-yorkais des années début 80.
Et noir.
Noir, plutôt rejeté de tous des styles un peu de danse et des tendances parce que un peu trop en marge, et finalement ils se sont mis à singer un peu les devantures, les unes des magazines du magazine Vogue, et c'est un beau reflet, on va dire, de toute cette D'où toute cette mouvance de recherche de genre. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un corps de musclé et d'être une femme? Est-ce qu'on a le droit d'avoir un corps efféminé et d'être un homme quand même? Et du coup, toutes ces tendances et ces variations musicales là nous intéressaient. Donc on a été un peu chercher là-dedans. Et puis on a été chercher aussi sur d'autres pans. Moi, je pense vachement à un morceau qu'on appelle le Jude Law. Parce que c'est un peu issu d'une pub dans laquelle il y a de la musique de Muse, qui est une espèce de symphonie lyrique, rock lyrique, très très testostéroné, qui est très à la Muse. Ouais. Et du coup, on avait envie d'aller chercher un petit peu dans ces stéréotypes-là, parce que ça nous paraissait un peu... C'est pas évident de parler d'un sujet sans... on avait envie de l'aborder un petit peu avec subtilité, mais des fois, en fait, il vaut mieux être clair et aller à fond dans le propos plutôt que de faire en demi-teinte. Et du coup, ça a fait des morceaux qui sont très, très tranchés, qui peuvent paraître très... notamment je pense au premier morceau qui est très limite tuning, de l'électro-tuning, ouais, parce qu'on parle d'un mec qui est très bah oui, moi j'ai pas de problème avec les muscles, c'est comme ça. Et voilà, on a été chercher plein de styles qui sont absolument pas forcément mon domaine de base, mais c'est ça que j'aime bien aussi dans la collaboration avec des artistes de scène, de spectacle vivant, c'est vraiment essayer de trouver des nouveautés, des recherches qui dérangent un petit peu, et puis d'amener un peu ma patte un peu là-dedans. Quoi.
Sans tomber dans les clichés, j'imagine, assez faciles, malheureusement, à faire, ce qui est très bien, de prendre un petit peu de recul, d'affiner la recherche, d'avoir cette proposition musicale. Oui. Bah, justement, comment toi, tu te sers de la musique? Quelle est l'envie d'accompagner ce spectacle-là par un musicien? Alors certes, ce n'est pas la première fois que vous travaillez ensemble, mais il y a ce détail tout de même artistique, ouais, qui est à souligner et qui, je pense, est primordial aussi pour toi en tant qu'artiste circassienne.
Bah, il y avait plusieurs choses. Enfin, on avait déjà travaillé ensemble, mais plus en termes de son et pas de création musicale pure et dure. Et je savais que Lucas était musicien aussi. Et moi, j'avais juste l'envie, en fait, tout simplement, d'avoir de la musique au plateau. En plus, il y avait aussi... voilà, je chantais un petit peu déjà. Il y avait un désir de chant de ma part. Donc, bon, franchement, c'est ça. On fait de la scène, c'est pour réaliser des fantasmes. Hein, faut qu'on se le dise. Bah, c'est complètement égoïste à la base.
On peut s'en apercevoir. Hein, tu t'habilles, tu te déguises.
Voilà, tu fais chantes. Et qui tu veux, donc voilà, si je vais être chanteuse, je peux. Et il y avait ça, puis en plus, vu la thématique aussi, au départ, il y avait aussi cette histoire de voguing, de travail sur le cabaret, drag queen. Il y a un peu, alors c'est beaucoup plus en filigrane maintenant dans le spectacle, mais il y avait quand même ces idées-là, donc des tours de chant. Donc on avait même travaillé d'autres morceaux, on a d'autres morceaux qui ne sont pas dans le spectacle, et des fois, l'idée c'est de faire un peu des concerts avec, mais bref. Donc c'était un peu ça, l'envie de départ, enfin, voilà, c'est une envie personnelle. Et puis après, par rapport à la thématique, il y avait des choses que je trouvais intéressantes de pouvoir avoir un musicien au plateau. Et moi, je venais de faire un solo, j'avais envie d'avoir un musicien au plateau, mais il n'est pas que musicien, il y a quand même une petite passe, une complicité entre nous, il y a un petit jeu qui se passe. Et ça aussi, c'était important de l'intégrer aussi dans le jeu, quoi, avec moi, quoi.
Oui, tu n'es pas donc le musicien qui accompagne l'artiste, qui est caché dans l'ombre, alors que la douche est sur la lumière et sur l'artiste.
Oh,
oui,
quand même, ça, un, ouais, petit peu, un petit peu plus, bah, sur moi, quand même, la lumière.
J'espère bien tout de même qu'il y a ce petit côté égocentrique de l'artiste qui ressort à travers la mise en scène, je le souhaite. Du coup, à travers cette façon, en tous les cas, d'interpréter, de jouer, de se déguiser, de chanter, d'être accompagné par un musicien, est-ce que quelque part, et j'ai pu le lire, il y a cette notion de clown qui est présente?
Bah, en fait, oui, alors je dirais pas que c'est pas du clown, clairement. Après, moi, j'ai toujours travaillé avec les outils du clown, ça fait partie de moi. Je suis sur scène, il y a forcément un pendant avec de l'humour, parce qu'en plus, généralement, je trouve que c'est comme ça, avec l'humour, qu'on peut parler de choses graves. Je trouve ça beaucoup plus fort. Du coup, il y a quand même pas mal d'humour, oui, dans le spectacle et de choses qui s'en approchent, et même de la créature, parce que même je travaillais aussi avec un drag queen sur un autre spectacle, et lui, il me disait, il parlait de créature, il parlait exactement de la même manière que les clowns parlent de leur de leur invention, enfin de leur autre, qui sont aussi des créatures. Donc il y a quelque chose qui se rapprochait, qui du coup je trouve intéressant à faire comme pont pour moi. Après, donc voilà, oui, il y a forcément du jeu clownesque, ouais.
Lucas, du coup, ton rôle, est-ce que c'est celui du clown blanc, le clown silencieux, le clown triste? Quelle est ta forme de clown que tu as décidé d'interpréter en tant que musicien et duo, du coup, de ce spectacle D-Club?
C'est vrai que c'était pas évident au départ de trouver un peu la place, et je me suis... En fait, c'était pas parti pour être un duo. J'allais faire la musique du spectacle, c'était assez clair. Et en fait, au fil des résidences, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une... Plus que, au-delà de la complicité, parce qu'elle existait de toute façon, mais c'était vraiment un intérêt d'avoir quelque chose de vivant, d'avoir quelque chose un peu d'organique comme ça. Il fallait absolument que la musique reste quand même adaptable, on va dire, à la vivacité, on va dire, du spectacle sur le moment. Et c'est vrai que au départ, j'étais musicien. Et je me suis positionné en tant que musicien. Donc le musicien, qu'est-ce qu'il fait pendant qu'il ne joue pas? Il s'emmerde, il boit un coup,
il regarde le spectacle,
il regarde le spectacle. Mais en fait, j'étais très passif sur cette notion de clown, ou en tout cas de personnage. Et en fait, c'est petit à petit que c'est venu, et c'est pas venu tout de suite. Notamment, j'ai presque envie de dire, sur les premières, j'étais pas complètement satisfait de ce personnage que je n'arrivais pas encore à trouver.
T'as le plus dur, parce que c'est très...
C'est vraiment être en jeu sans parler et sans en faire des caisses au niveau du corps, parce qu'évidemment, sinon c'est trop burlesque, grotesque, ça marche pas. Et en fait, petit à petit, j'ai trouvé mon personnage grâce à la répétition de ce spectacle avec le public, parce qu'on a eu un peu un problème, on va dire, de création. C'est-à-dire qu'on a eu la chance de créer pendant 2 ans de Covid, donc c'était parfait en quelque sorte pour nous.
Oui, vous avez pu effectivement aller jusqu'au bout.
Hein. Exactement, voilà, c'est ça. Mais on attendait beaucoup de résidences avec des sorties de résidences pour pouvoir proposer au public et avoir des échanges avec eux, ce qu'on n'a pas eu. Et donc je pense vraiment que ça a pesé un peu sur moi, ma place en tant que caractère personne du spectacle, au-delà du musicien. Et effectivement, petit à petit, j'ai trouvé cette place-là avec le jeu, avec le public, et m'en rendre compte que en fait, c'est important de ne pas être le musicien qui fait que jouer son morceau et puis attendre et boire un coup.
Puis voilà. Là, c'est aussi ce qui fait ça assez vite, ce qui était assez évident aussi, c'est que l'espace est particulier, c'est un trifrontal, c'est un petit espace, c'est très intimiste, donc il est présent. Enfin, on le voit, on ne peut pas le mettre dans l'ombre, en fait, même, c'est impossible. Et en plus, il y avait quand même ce désir que, il est là, il est à côté de moi, donc il faut qu'il soit présent, autrement que, moi, j'aurais trouvé ça dommage qu'il fasse juste le musicien, entre guillemets. Oui, même si c'est déjà beaucoup.
Même si c'est déjà beaucoup, effectivement, d'avoir un musicien en live pour accompagner un spectacle, c'est déjà énorme.
Mais là, ça aurait été étrange, quoi. Ça sonnait pas.
On peut souligner effectivement les problématiques économiques également qui peuvent empêcher certains artistes d'être accompagnés par des musiciens live. Tu fais bien de le souligner autour de cette structure qui vous accompagne pour ce spectacle. C'est un petit peu ramener quelque chose de personnel partout où tu es, avoir toujours ces mêmes repères.
Ouais.
On a notre
petit théâtre et on se balade avec notre petit théâtre, qu'on aille, au moins on n'a pas de nouveaux repères à avoir, plus ou moins, mais ouais, je sais pas, c'était une envie, j'avais envie de quitter la boîte noire des salles, parce que j'ai beaucoup plutôt travaillé en salle, en théâtre, et il y avait un truc qui me fatiguait un peu là-dedans, donc j'ai l'impression que quand on se balade avec la petite structure, en fait, parce que l'idée aussi, c'est qu'un jour je ferai de la rue, vraiment de la rue, mais j'en suis pas encore là. Donc c'est un premier pas, on va dire, d'avoir ce petit théâtre qui se balade avec nous à ciel ouvert là, et de pouvoir aussi jouer dans des festivals, dehors, en salle, dans des lieux qui sont pas forcément dédiés. Ça ramène un peu, j'espère, différentes personnes que des gens qui sont abonnés dans des scènes nationales ou quoi. Donc il y avait aussi un peu tout ça, se confronter à d'autres publics aussi.
C'est drôle parce que souvent en discutant donc avec les artistes circassiens, beaucoup ont un parcours qui est à l'inverse, à savoir que certains artistes ont commencé dans la rue, justement, ont commencé au feu rouge, voilà un petit peu le cliché, mais ont commencé dans la rue, ce qui n'est pas ton cas en l'occurrence.
Non, danseuse étoile d'abord et puis...
Et ce qui est très bien, c'est que tu te rends compte effectivement que ces scènes conventionnées sont certes très bien, permettre en tous les cas à des gens de bien vivre. Mais de sortir de ce cadre-là, en tous les cas, et de ces fameuses boîtes noires, c'est aussi bien.
Ouais, ça fait du bien aussi, ouais.
Et c'est aussi, du coup, se rapproprier bien l'art que tu développes depuis de nombreuses années et vouloir le diffuser dans la rue et donc adapter et peut-être modifier ton état d'esprit et la façon de penser tes spectacles.
Ouais, bah ça viendra peut-être après. Pour l'instant, je pense qu'avec ce spectacle-là, il est quand même très écrit, il est quand même protégé parce que c'est une petite boîte noire qu'on trimballe quelque part. Donc, mais c'est sûr que, enfin, on fait pas de la rue là, clairement. Moi, je peux pas dire ça. On fait juste dans d'autres espaces, quoi. Mais même si on a joué dans des endroits où il y avait du bruit autour, donc ça a modifié un peu des choses, etc. Mais c'est encore léger et, par rapport à si vraiment tu fais des créations in situ, enfin. Où tu t'inspires même du lieu pour à chaque fois tu modifies. Donc là, c'est le travail d'écriture est différent, quoi, d'adaptation en tout cas.
Eh bien, je vous invite à découvrir ce spectacle, donc Dick Love, entre autres, durant donc cet été multipiste ce soir, et vous jouez également donc bien demain. L'occasion peut-être également de vous retrouver durant cet été ou bien à la rentrée.
À la rentrée maintenant, ouais.
Ce sera où et quand est-ce que
Eh ben, on joue à l'espace périphérique à la Villette à Paris le 10 et 11 septembre. Pour les 20 ans de Circus Next, un dispositif cirque européen. Voilà, après nous jouons à Blois en octobre, sûrement au Festival Michetot du côté de Nancy, à Lille au Prato, au 104 en février à Paris. Voilà, puis d'autres lieux, mais j'ai pas tous les noms en tête, quoi.
Mais c'est parfait, écoute, je renverrai de toute façon les gens qui sont curieux, qui ont envie d'écouter le podcast sur notre site internet, vers donc eh bien un autre site qui permettra tout simplement d'être au courant de vos dates de tournée. Merci beaucoup à tous les deux, en tous les cas.
Merci à toi.
Merci, à très bientôt, à très vite.
Oui, bonne soirée.
Et ce soir, j'irai voir donc eh bien ce spectacle Dick Love, c'est à partir donc de 22h.